Salut, ici Denis Talbot.
Frank the Tank.
Ian Richards.
De l'émission Radio Talbot. On espère que vous aimez l'émission que vous écoutez en ce moment. Ça s'appelle Réalité Augmentée avec JB Gagné, Luc Desormeaux et Daniel Carosella. C'est pas les meilleurs, mais sont sympathiques. Et j'espère qu'ils vont nous payer.
Shut up and take my money!
Bienvenue tout le monde sur la réalité augmentée de la techno à un autre niveau. Jean-Benoît Gagné, votre animateur, votre chéri animateur, avant de recevoir des roches de mes comparses qui sont avec. Je sais que ça s'en vient, là, fait que tout se met de lancer des fleurs avant, parce que le pot s'en vient. Luc Desormeaux est avec nous. Salut, Luc.
Salut, toi.
Daniel Carosella.
Salut, chéri.
Non.
Alors, il a dit chéri animateur. Moi, je suis l'animateur.
J'ai dit votre animateur chéri. C'est pas pareil.
Okay. Excuse-moi, je suis fatigué.
OK. On va te pardonner.
Tiens-toi, Daniel. Ça pourrait être ramené contre toi plus tard.
Oui, je le sais. Vous en avez
suite
fait.
Aussi, si tu veux. Là, je peux
non, mais au nombre de fois où vous en avez fait la démonstration que ça pourrait revenir contre moi, je le sais.
Non, mais Daniel, en tant que criminel, se faire lire ses droits, tu connais ça, là.
Tout à fait. Moi, c'est quotidien dans mon cas.
Donc, garder le silence, tu sais c'est quoi. Tu sais, c'est vaut mieux ça que de se mettre les pieds dans la bouche.
Tout à fait. Ma philosophie de vie, ça s'appelle omerta.
Oui, exactement. Puis ouais. C'est bien de même. Cette semaine, avec nous, on va avoir un collaborateur dans l'ombre. C'est comme le cinquième Beatle dans un band à trois. Donc, le quatrième... genre la roue dans l'ombre du carrosse, c'est le Dude qui a fait notre logo. Dude, salut!
Salut!
tu peux répondre tout de suite quand je te parle. Il n'y a pas de différé. Max Giguère qui est avec nous. Salut, Max!
Ça va bien, toi?
ça va bien.
JB, tu l'avais-tu préparé, cette intro-là, ou c'est comme juste de même?
Ça donne de même, là.
OK, c'est correct.
Cinquième roue dans...
Que de carrosse à 4, ouais, je sais pas, à 3, ça, ouais, c'est garde la peau.
C'est ça qui m'a ébranlé, je dois avouer. Hein,
ouais, il est entré en compte, il est en compté sur ses doigts, il dit, un peu.
Il y a combien de roues?
Il y a un chiffre qui manque là-dedans. Ouais,
on est fatigué cette semaine. Hein? On a, je pense, tous et chacun une grosse semaine en arrière de la cravate. Et donc, question d'alléger et de pouvoir mettre un petit peu le poids sur une autre personne. Max est avec. Pour parler un peu de la création de notre nouveau logo, je veux en partant saluer Olivier Leblanc-Lucier qui avait fait notre première itération. On le remercie pour ses vaillants services. Et c'est vraiment à force de discussion sur Twitter que la connexion s'est faite avec Max. Max, parle-nous un petit peu là, de comment ça s'est passé pour la création de notre magnifique logo.
En fait, ça a parti vraiment du fait que tu m'as contacté, que j'ai gagné un prix par le concours pour gagner Dead Island Riptide. Fait que j'ai commencé à entrer en communication avec toi. On a eu des petits problèmes avec Daniel, n'est-ce pas?
Je me rappelais pas si c'était à toi que je l'avais envoyé. Comme dirait les Anglais, busted.
Dis-toi que twist une fois, nous autres, c'était twist, man.
Fait que à partir de là, on a commencé à jaser pas mal. Puis finalement, tu t'as dit que t'aimais mon logo. Puis c'est... que tu regardais pour peut-être changer le tien.
Ouais, ben, ce qui arrive, c'est que je jasais tellement souvent avec Max pour dire, tu sais, ça s'en vient. Tu sais, c'était dans mal, là, ça s'en vient. Que maintenant, on a comme étalé sur d'autres sujets, là, tu sais, après la météo, qu'est-ce qu'on fait dans la vie. On a parlé de logo parce que j'aimais bien, bien gros ton logo sur Twitter, ta petite image. Parce que toi, tu fais ça dans la vie, t'es graphiste.
Exactement, oui. En fait, je suis graphiste à mon compte et je suis aussi graphiste intégrateur CSS pour une compagnie de Sherbrooke. Fait que, grosso modo.
Et qu'est-ce que ça mange en hiver? Qu'est-ce que tu fais au jour le jour?
Au jour le jour, pour ma job actuelle, je fais plus d'intégration, mais en tant que graphiste, je peux faire de la création de logos, de sites internet, de dépliants, de posters. En fait, tout ce qui s'imprime, je suis capable d'y toucher.
Et quel genre d'entreprise qui va avoir besoin de vos services de ton côté?
Agence de publicité, agence web, agence de graphisme, point. Donc...
Fait que, t'as-tu comme des clients reconnus, connus, là, qu'on peut faire comme « Oh, ça, c'est le travail à Max Giguère », à part le logo de la réalité augmentée qui rayonne à travers la planète?
J'aime bien ton ambition.
Oui,
pas vraiment, j'en ai pas beaucoup. J'ai Alexia Gregory, qui est une maquilleuse professionnelle de Montréal.
OK.
Qui, en ce moment, veut faire plus de services en région. Donc, elle est partie plus en région, justement, côté Estrie, dans ces environs-là. Sinon, non, j'ai pas vraiment beaucoup de clients actuellement. C'est plutôt tranquille. Je travaille plus pour l'entreprise à laquelle j'ai été engagé que pour mon compte en ce moment.
OK. Et,
mon but, en gros, c'est de réussir à aller à mon compte à 100%, sauf que dans ce temps-ci, j'ai beaucoup, beaucoup de compétition à Sherbrooke. Fait que c'est pas un endroit facile à percer.
Est-ce que tu as un site internet sur lequel on peut voir ton matériel, des choses que tu as réalisées?
J'ai un site internet, oui. C'est une page temporaire, par contre. Donc, il n'est pas aucunement produit encore. Il est en cours d'idéation.
Okay.
Mais c'est maximegiguerre.com.
Pas d'accent.
Pas d'accent, pas d'espace, pas de majuscule.
Et là-dessus, on retrouve quelques-uns de tes concepts.
Non, pas encore d'ailleurs. On retrouve juste un texte disant que j'étais à Sherbrooke.
OK.
Et que vous pouvez me contacter. Donc non, pour le moment, il n'y a rien. Sinon, là-dessus, il y a un lien sur un site qui s'appelle Dribble, qui là a quelques matériels que j'ai fait au fil du temps pour la compagnie pour laquelle je travaille présentement.
Ah, c'est ça, j'avais des images. Voyons, il me dit qu'il n'y a pas d'images, j'ai des images. Comment ça se fait? Fait que c'était sur le Dribble, d'ailleurs, sur lequel on voit notre magnifique logo international et d'autres produits sur lesquels tu as travaillé, genre iClubRadio.ca, des choses comme ça. Tu as fait quoi comme formation? S'il y a quelqu'un qui veut s'en aller dans le domaine du graphisme, ça prend quoi comme formation? Comment est-ce qu'on arrive à travailler dans ce domaine-là?
En fait, c'est un deck. J'ai été au Cégep de Sherbrooke, donc une technique de 3 ans en graphisme. Après ça, ben c'est réussir à trouver un emploi dans une des agences auto ou partir directement à son compte. Dans un cas ou dans l'autre, bonne chance parce qu'il y en a beaucoup sur le marché présentement. Mais c'est ça.
OK. Donc, la compétition est forte. Et pourquoi tu as accepté de faire le logo de la réalité augmentée? Parce qu'on faisait pitié ou parce que tu es simplement gentil?
J'hésite entre les deux.
Réfléchis pas trop.
Tu peux de la colonne 1, tu peux de la colonne B.
En fait.
Est-ce qu'il te trouve sympathique, mais ça, c'est parce qu'il t'a jamais rencontré.
Ouais,
ça.
C'est probablement ça.
Sérieusement, non. C'est tout simplement que j'écoutais beaucoup de podcasts, puis j'aime ce que vous faites, les boys.
Merci.
Fait que c'est ça, au fil du temps, ben, tandis que j'ai rentré en contact avec vous autres par le fait du concours, ben. J'ai commencé à jaser beaucoup, puis quand il m'a dit comme quoi qu'il aimait mon logo, qu'il checkait pour peut-être changer, ben ça m'a fait plaisir d'aider ce pauvre petit JB.
Oui, faire du bénévolat pour un pauvre, c'est bon. Donc, ben écoute, un gros merci, Max. J'espère que ces quelques minutes de gloire sur la réalité augmentée vont permettre à des gens de te connaître, d'aller sur ton site web, le maximegiguerre.com, d'aller voir ce que tu fais, d'aller voir un peu tes concepts et de t'embaucher pour qu'éventuellement tu puisses gagner ta vie avec ça, pas juste faire du bénévolat comme tu as fait avec nous. On te le souhaite. On espère que ça va fonctionner pour toi et on espère que les gens vont aller cogner à ta porte énormément pour te faire travailler, parce que t'es vraiment bon. Moi, j'ai vraiment capoté. C'est pour ça que je t'ai demandé un petit peu ton aide.
Merci.
Prends-les, si t'as des fleurs, il n'y a pas de pot qui s'en vient. Là.
Non, je m'aurais attendu à un pot d'un des deux autres, là, mais...
je m'en disais, de toute façon, t'étais aussi bête de faire ça bénévole, parce qu'on a un talent fou pour faire rebondir des chèques, nous autres.
On dribble avec les chèques, nous autres.
Ouais, tout ce bon de faire ça gratis. Tout ce bon de faire ça gratis, parce que le chèque aurait fait boing.
Non, mais nous, on a quand même donné notre part, tu sais, parce que Jean-Benoît qui capote m'a dit, ramasser ça, c'est...
Évident,
c'est quelque chose que vous ne voulez pas vivre.
Ah non, ouais, c'est dur, ouais. C'est dur.
Ben, c'est pas juste dur, c'est aussi effrayant. Je vous laisserai là-dessus.
Deuxième sujet de la semaine, je veux faire une salutation à quelqu'un que je suis en termes de podcast depuis quelques temps déjà, avec qui j'ai eu le goût de travailler et qui a décidé de le faire, qui a décidé d'accepter mon invitation, autant sur les ondes que dans une émission que j'anime de podcast. Je vais te faire une salutation à Luc Desormeaux. Salut Luc!
Ah, je le connais-tu lui, salut!
Salut! Je veux saluer ton travail pour Histoire de Gamer, le dernier épisode qui est présenté maintenant sur iTunes, qu'on peut retrouver aussi sur ton site internet, le CJUAP. www.radiocanada.ca.
.com.
Mais oui, c'est important, .com. Avec,
si c'est .ca, je ne sais pas si ça existe.
Ah, bon, OK. Avec FDL, dans le dernier épisode, je veux juste dire que j'ai écouté tous les épisodes de Histoire des Gamers. J'ai adoré ce podcast-là, et j'aurais aimé ça te dire longue vie avec ton projet, mais ça se terminait avec ce dernier épisode-là. Un gros merci pour toutes les belles rencontres que tu nous as fait vivre avec ton podcast, toutes les belles entrevues que tu as réalisées, et je veux pas me lancer le défi, mais je pense qu'il n'y a pas grand monde qui aurait été capable de rassembler une brochette d'intervenants aussi intéressants que ce que tu as été en mesure de le faire. En plus, il y avait moi et Daniel comme invités à m'amener sur son show. Fait que tu sais, la crème de la crème, tu sais.
Ils disent à force de brosser, la crème remonte sur le dessus.
Toujours. Toujours, toujours. Fait que c'est ma petite salutation. C'est un peu de tâtage, mais juste pour dire que c'était un bonheur d'écouter Histoire des Gamers. Puis un gros merci pour ton apport au podcasting. Tu vas arrêter de ce que tu nous as mentionné. Là, pour l'instant, tu arrêtes l'animation, mais tu vas demeurer dans la réalité augmentée à moins que tu finisses par te tanner. Là.
Ou à moins que tu me mettes dehors. Là, mais...
C'est des options, oui.
Ouais, non, c'est sûr, je m'en ai dit, c'est des menaces. Ça fait déjà deux fois à peu près que je pense arrêter d'animer des podcasts, mais j'avais trop de fun à faire réalité augmentée, j'ai du fun aussi, mais Histoire de Gamer, puis je voulais le finir, puis j'avais dit que c'était bon. Ben, c'est supposé être 24 épisodes, ça a fini à 22 parce que j'avais deux invités de plus, puis ils ont juste pas répondu à ma demande. Donc j'ai dit, bon, mais tant qu'à niaiser, puis essayer de pousser, puis me casser la tête à voir qui je pourrais inviter d'autres, ben, j'ai décidé de finir ça à 22. Puis mon dernier, de toute façon, c'était FDL que je voulais. J'ai fini la première saison avec Denis Talbot, fait que je voulais finir la deuxième avec FDL, parce que j'avais pas encore eu sur le show, puis ça fait comme ça. Fait que j'ai eu beaucoup de plaisir, je me sens vraiment privilégié d'avoir parlé avec tout ce monde-là, là. Bruno Georget, Tristan Geoffroy, toute la gang de Monsieur Net, plus des podcasteurs comme Dominique Simard qui a fait le show avec nous autres au début, Maxime Tremblay, tout ça. Fait que ça a été vraiment super le fun à faire. J'aurais-tu continué à le faire? Ben oui, j'avais du fun à faire ce podcast-là, mais à un moment donné, il faut que ça finisse. Là. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir, puis j'espère que les gens ont autant de plaisir à l'écouter que moi j'ai eu à le faire. C'est le fun. Mais oui, j'ai vraiment décidé d'arrêter d'animer, fait que je vais juste être maintenant participant sur ton ou ce merveilleux show.
Ben oui.
Que j'aime bien faire à chaque semaine.
Dans lesquels on a un peu de plaisir. Un peu.
De temps en temps.
Et autre aparté, avant de vraiment commencer avec les chroniques habituelles, je veux parler de ma visite samedi à la porte ouverte de Binox du côté de Québec. Un bel événement que Binox nous a invités à aller visiter. Les deux autres boys, ben, eux autres étant dans le secteur plus dans l'ouest du Québec, donc Montréal et Saint-Zotique, City. on n'a pas pu y aller, mais moi, je me suis pointé là-bas. C'était une belle visite. C'était la première fois en 4 ans que François Tadei et sa gang ouvraient leurs portes à la clientèle, au public. Et une des choses que j'ai pu remarquer dans cette visite-là, en dehors de la passion qui anime les gars qui travaillent et les filles qui travaillent là-bas, parce que oui, il y avait plusieurs filles, aussi étonnant que certains peuvent penser que ce l'est, il y avait plusieurs filles dans des domaines vraiment différents les uns des autres. C'était pas juste des dessinatrices, il y avait des personnes pour tout ce qui est section débogage, pour trouver les bugs dans les jeux, du développement, du motion capture, des affaires comme ça. Vraiment... Des emplois spécifiques et vraiment diversifiés pour autant les filles que les gars qui travaillent chez Binox. Et une des choses que j'ai pu remarquer qui a été fort intéressante, c'est qu'il y avait clairement deux types de clientèle spécifiques qui étaient là. Il y avait les tout-petits qui étaient là pour les Skylanders et qui étaient accompagnés par leurs parents qui avaient aucune idée qu'est-ce que ça pouvait faire l'univers du jeu vidéo de l'intérieur et qui ont été bien étonnés de voir que finalement, écoute, c'est un travail. Il y a du monde qui conçoit ça. C'est des gens brillants, c'est des gens qui ont des bons travails, c'est des gens qui, écoute, gagnent super bien leur vie. Pis c'est pas juste finalement une passion d'enfant de jouer avec les jeux puis qu'à un moment donné, ils vont vieillir puis ils vont comprendre qu'il y a d'autres choses dans la vie. Le jeu vidéo, c'est plus grand que ça. Et il y avait les jeunes adultes, les adolescents qui étaient probablement fin secondaire, début cégep, qui se demandaient, écoute, moi j'ai une passion, j'aime ça jouer, je suis intéressé par l'univers du jeu vidéo, quelle formation j'ai besoin pour pouvoir travailler là-dedans? Quels sont les cœurs de métier? Et là-dessus, les gens de Binox ont été extrêmement gentils avec les participants. On était toujours séparés en petits groupes, une dizaine. Question de pouvoir avoir une bonne communication entre les visiteurs et les travailleurs, les exposants des différents bureaux qui étaient présentés, les différentes facettes. Et quand on avait une question, quelle formation ça prend? Écoute, tu voyais que ça leur faisait plaisir de partager cette connaissance-là et qu'il y ait des gens qui aient le goût de faire un peu comme eux. Tu sais, d'une certaine façon, c'est les pompiers, les policiers, tu sais, ça intrigue toujours les enfants. Ils veulent devenir ça, mais de voir que ton métier peut aussi faire l'envie de jeunes, ça doit être un petit quelque chose. Ça fait un petit velours. Et Binox recevait les CV, faisait des choses comme ça à la toute fin. Il y avait le 25 heures de gaming aussi, le marathon pour Opération Enfant Soleil qui se déroulait aussi en parallèle avec l'événement. Donc, c'est une belle organisation, des beaux studios, du gros travail d'équipe. C'est énorme, Binox. Moi, j'ai eu la chance de faire les deux visites. Il y en avait deux. Il y en avait une pour tout ce qui était personnage. On partait de l'esquisse jusqu'à l'animation finale. Les voix, le bruitage. Et on avait l'autre section qui était plus comme l'univers en tant que tel, la conception de niveau des esquisses jusqu'à ce qu'on puisse avoir un personnage qui évolue dans celui-ci. Donc, on avait quand même deux facettes complètes. Moi, j'ai eu la chance de faire les deux. Normalement, les gens en faisaient seulement une des deux. Puis on avait séparé les bureaux de Binox qui ont 3 ou 4 étages, puis il y avait 2 étages qui étaient avec les visites, plus un troisième qui avait comme la salle des serveurs, plus l'emplacement où est-ce qu'il y avait la cafétéria et les gens qui faisaient le marathon de gaming pour Opération Enfant Soleil. Donc, les gens ont pu se présenter là et on divisait donc par étage des groupes de 10 pour que ça aille le plus rapidement possible. Ils ont eu 1500 personnes qui se sont pointées, donc c'était un gros succès. Et les gens, de ce que j'ai vu, il n'y a pas personne qui était déçu de sa visite chez Binox. Et les boys, si vous me le permettez, je vais vous faire entendre une petite entrevue que j'ai réalisée avec François Tadek, qu'on a déjà eu sur l'émission qui est porte-parole et concepteur de jeux vidéo chez Binox. On s'est juste comme... Je l'ai croisé, je dis « Hey François, écoute, j'aimerais ça jaser avec toi de l'événement, faire un petit constat de qu'est-ce que c'est, comment est-ce que ça se déroule pour vous autres. » Puis il me l'a... Il m'a accordé un petit peu de temps. J'ai visité des pièces que personne d'autre n'a vues, genre une salle de conférence. J'ai passé en avant d'une salle de toilette que les autres n'avaient pas accès. Je suis tellement VIP, c'est incroyable.
Ah, tellement.
Ah ouais, non, écoute, on est la coche ou on l'est pas. Hein?
Tu te considères VIP parce que t'as vu une toilette?
Une toilette que les autres n'ont pas vue. Bon.
Oui.
T'as-tu été faire un petit VIP?
Non. Non, même pas.
On sait jamais. Tant qu'à être là.
Ben oui. Fait que je vous présente cette entrevue-là sur l'émission de la réalité augmentée. Merci beaucoup à François et à Binox pour cette permission qu'ils nous ont accordée. On est avec François Tadeille qui est porte-parole pour Binox du côté de Québec. On s'est pointé à l'événement Porte ouverte 2013. Salut François.
Oui, bonjour, ça va bien?
Ben oui, très bien. Deuxième visite déjà dans l'émission. Écoute, t'es comme notre chouchou, là. On va te donner une carte spéciale. Je voulais qu'on parle un peu de cet événement Porte ouverte, nous parler peut-être un peu de ce que les gens ont pu voir dans le cadre de cet événement-là pour que ceux qui n'y étaient pas, ben, se disent, ben, maudit, j'aurais donc dû y aller.
Alors oui, c'était une rare opportunité de visiter nos studios. On n'ouvre pas souvent nos portes. La dernière fois, c'était en 2009. Mais je peux vous dire que là, avec le succès qu'on a encore aujourd'hui, on va peut-être refaire ça avant 4 ans, là, la prochaine porte ouverte. Et les gens ont pu parcourir les différentes étapes de création d'un jeu vidéo. Donc, on avait 2 parcours à faire que les gens pouvaient voir. Et ils voyaient, mettons, par exemple, comment on illustre l'illustration. Après ça, la modélisation, l'animation, la programmation, l'assurance qualité. Donc, il y avait différentes phases qui étaient comme ça présentées. Et c'était bien sûr nos employés qui présentaient donc leurs différents corps de métier. Ils pouvaient apprendre comment on avait fait, par exemple, un jeu comme Calendar Swap Force. Plus particulièrement, on s'est attardé à l'ensemble Tower of Time, un ensemble aventure qui était vendu séparément, dont nous avons développé le contenu au complet. Alors, c'était ça. Et ensuite, au 7e étage, bien, ils pouvaient bien sûr parler à nos ressources qui étaient sur place, qui pouvaient poser des questions supplémentaires, ou certains ont remis leur curriculum vitae parce qu'on avait les ressources humaines aussi étaient là. Et ils ont pu aussi encourager les gens qui faisaient le marathon Extra Life, donc pendant 25 5 heures, ils ont gamé et amassé des fonds pour Enfants Soleil et ça s'est très bien passé.
Vous attendiez à combien de personnes pour cette journée porte ouverte?
Écoutez, la dernière fois, on avait eu 1500 visiteurs en 2009 et à cette époque, nous n'avions pas encore lancé de jeu de la franchise Spider-Man ou Scalander, donc on s'attendait à avoir un peu plus cette année et c'est à peu près ça, je peux vous dire actuellement, à 250 personnes à l'heure, on va arriver à un chiffre blab ou un petit peu supérieur.
Dans toutes les personnes là, qui travaillent ici, il y en a combien? Ça comprend combien de cartes de métier? Tu parles qu'il y a des gens pour les ressources humaines qui ont déposé leur CV. Y a-tu la recherche? Y a-tu encore de l'embauche?
On est toujours en constante recherche de perles rares, je dirais, parce que notre industrie, avec la nouvelle génération de consoles qui arrive, demande des compétences de plus en plus pertinentes et aussi de l'expérience. Donc, à ce moment-là, les gens qui ont déposé leur CV vont peut-être avoir éventuellement une chance de travailler ici. Oui, on est des centaines de personnes à travailler dans le développement de jeux vidéo aujourd'hui, et même pour une production comme Skylander Swampforce, on parle de plusieurs studios d'Activision qui travaillent sur le même projet, donc des centaines de personnes littéralement. Et donc, ici, les corps de métier sont très variés. Généralement, on va les regrouper en quatre sphères, donc tout ce qui est lié à la programmation, tout ce qui est lié à la conception au niveau design et à l'artistique. Également, en parallèle, donc production, administration, là, les autres corps de métier. Et dans chacun de ces corps-là, bien, plus l'entreprise grossit au fil des ans, plus ça se subdivise. Donc, par exemple, en design, on va avoir des concepteurs de niveau, des concepteurs de jeu, des personnes qui vont s'occuper plus de la narration, des réalisateurs de cinématiques. Alors, ça prend, évidemment, selon les projets, différentes tournures. On va avoir des gens, mettons, spécialisés en design de combat, en design de caméra. Alors, ça se subdivise comme ça, plus le projet est gros.
Est-ce que déjà, au moment où est-ce qu'on se parle, Skylanders est derrière vous? Vous êtes à 100% dans Spider-Man ou il continue à avoir du travail là-dessus?
Écoutez, nous, on a deux équipes de développement ici chez Binox. Alors, une équipe était à l'œuvre sur The Amazing Spider-Man l'année dernière. Une autre équipe était à l'œuvre sur Skylander. En ce moment, on a deux équipes. Une est toujours à l'œuvre sur The Amazing Spider-Man 2, qui lui va sortir au printemps prochain. Et une autre équipe reste en développement sur la franchise Skylander parce qu'Activision mise sur cette franchise-là, non pas pour le court terme, mais pour le long terme.
Donc, tu ne parleras pas d'annonce de sortie, on n'est pas rendu là. Je veux que tu parles un petit peu de Spider-Man, tu as parlé de 2015. À l'heure où est-ce qu'on se parle, tu as combien de pourcentage de complété?
Écoutez, ça sort plutôt en 2014 au printemps, donc on est quand même très avancé dans le développement du jeu. Il reste malgré tout un bon 6 mois de développement devant nous, où là on va peaufiner certains aspects du jeu qui ont été demandés par les fans, parce que bon, après chaque jeu, on fait un post-mortem, on regarde les critiques, on regarde ce que les gens ont demandé. Amazing Spider-Man est un notre premier jeu se déroulant dans un monde ouvert. Donc, on a tiré des leçons de ça. On sait ce que les gens veulent un peu plus maintenant. On a eu beaucoup de commentaires sur le web-swing, par exemple. C'est un des commentaires numéro un qui est revenu, comme de quoi les gens auraient aimé un web-swing plus technique, qui s'accroche au mur. Donc, on est allé dans cette direction-là et on a travaillé le web-swing pour qu'il soit le plus fun aussi possible. Parce que, bien entendu, les gens gardent beaucoup le souvenir du jeu Spider-Man 2 depuis plusieurs années. Et donc, on va essayer de reproduire ce comportement-là et même d'aller peut-être au-delà de ça. Donc, c'était le mandat qu'on s'est donné, mais aussi de développer du contenu pour le monde ouvert, pour la ville. Bien entendu, nous, le jeu s'inscrit entre la fin de notre dernier jeu et le deuxième film. C'est dans une parallèle, en continuité, qui est sa propre continuité, où on va explorer, on va suivre à la trace l'assassin d'Oncle Ben, l'oncle de Peter Parker. Donc, on va retrouver c'est qui, et je peux vous dire que ça va être certainement un vilain très important.
Moi, là, de ce que j'en vois, dans l'imaginaire des gens, Spider-Man, Skylander, c'est deux mondes complètement différents. Comment est-ce que c'est pour une boîte de travailler sur des franchises aussi différentes? Est-ce que ça se ressemble, finalement, comme travail?
Bien, je vous dirais que nous, on avait de l'expertise dans les deux domaines parce qu'on avait les premiers jeux sur lesquels on a travaillé comme concepteur, c'était B-Movie et Monster vs. Alien, donc des franchises pour enfants. Et donc, on avait une certaine expertise de ce côté-là. Bien entendu, Spider-Man, c'est un jeu beaucoup plus réaliste. Donc, pour les artistes, c'est vraiment très différent le travail sur un jeu comme Spider-Man ou Skylander. Pour les programmeurs, c'est un peu plus semblable parce que, dans le fond, que ce soit un jeu ou un autre, des fois, les défis sont semblables. Mais il y en a quand même des fois des petites différences. Un monde ouvert via un jeu par niveau, c'est des défis différents. Puis, pour les designers, ben c'est très différent comme défi. Donc, on a des gens qui ont des différents champs d'intérêt dans notre entreprise et qui peuvent travailler sur une franchise ou l'autre, ou passer d'une à l'autre, par exemple.
En terminant, je veux qu'on revienne un peu à la visite. Je sais que tu t'es promené un petit peu, tu n'as pas nécessairement suivi les groupes, mais est-ce que tu as des questions qui sont revenues des gens qui ont pu avoir des réponses grâce à votre visite?
Bien, je crois qu'un des objectifs de notre visite, et je pense que ça a été bien réussi, c'est vraiment continuer de vulgariser ce que sont les métiers de jeux vidéo, le développement de jeux vidéo. Il y a des gens que j'ai vus qui n'en revenaient pas. Ils étaient étonnés de voir à quel point, d'abord, c'est très grand, c'est très vaste. Oui, il y a des centaines de personnes qui travaillent dans l'industrie de jeux vidéo à Québec. On est certainement à près de 1000 maintenant. Donc, de voir l'ampleur que ça prend. Et aussi, je pense que surtout ceux qui étaient des enfants et les parents ont peut-être aimé cet aspect-là de la visite, c'est que ça prend quand même, faut étudier beaucoup pour travailler en jeux vidéo. C'est pas, on fait juste jouer. Donc, on leur expliquait que ça prend, les programmeurs, ça prend de solides notes en mathématiques. Donc, c'est important, les enfants, d'étudier en mathématiques et de continuer à l'école à performer. Donc, ça, c'est une chose qui revient. Parce que nous, on a le nez là-dedans tous les jours. Pour nous, c'est normal de faire des jeux vidéo. Pour les gens de nos familles qui sont proches aussi, c'est rendu presque banal notre travail. Mais pour des gens à l'extérieur qui connaissent pas beaucoup notre industrie, c'est encore un mystère, là, comment on fait des jeux vidéo. Et oui, il y a tellement de métiers différents. Ça les épate beaucoup, je pense.
Merci beaucoup, François, pour le temps que tu nous accordes encore une fois.
Bienvenue, bonne journée.
Salut.
C'était donc François Tadeil qui est porte-parole et concepteur de jeux vidéo chez Binox. Donc voilà pour cet entretien par rapport à la journée porte ouverte chez Binox. Un bel événement et de la façon qu'il avait de l'air à me jaser en dehors de l'entrevue, je pense pas qu'ils vont attendre 4 ans encore avant de représenter un événement de la sorte. Je pense que le contact avec le public, ça a quelque chose d'assez énergisant. Ça ground une équipe, tu sais, l'esprit de corps puis tout ça, là, ça remet les choses en place.
Ouais, puis j'espère que ça va en inspirer d'autres aussi d'ouvrir leurs portes. C'est toujours bon aussi, tu sais, d'avoir un contact avec ton public, puis d'avoir leurs commentaires, tu sais. Et je pense que François nous disait qu'il y en a qui sont assez, tu sais, il y en a qui vont assez loin, hein, dans la recherche, puis dans leurs exigences, mais en même temps, je pense que ça permet d'avoir un nouveau regard finalement sur tes projets quand tu peux échanger avec ceux qui vont y jouer finalement.
Ça, puis il y a aussi le fait d'encourager les gens à continuer leurs études, que j'ai trouvé très bien aussi.
Oui, absolument.
C'est vrai que le domaine du jeu vidéo, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, vous avez peut-être vu passer ça, les deux gars, mais tu sais, vous autres étant plus vieux, peut-être vous étiez moins jeune au moment de les voir, là. Mais les fameux t-shirts là, qui disaient « moi, je vais être Nintendolog ». Quand je vais être vieux, il y avait des t-shirts qui avaient ça. Ben, tu sais, oui, c'est bel et bien une carrière aujourd'hui. C'est pas des blagues. Il y a bel et bien des gens qui gagnent extrêmement bien leur vie dans ce domaine-là, qui sont des gens éduqués, qui sont formés, qui sont des adultes, tout ce qui est plus normal et tu sais, qui ont leur place dans la société et qui la font très bien avec des métiers très spécialisés, avec des formations. Et chez Binox, il y en a une méchante gang de cerveaux qui sont en ébullition pour pouvoir pondre des titres comme ils le font. Donc, j'espère, oui, un peu comme tu le disais, Daniel, que l'exemple va être repris par les autres entreprises d'ouvrir leurs portes une fois de temps en temps. Peut-être pas à l'année, une fois par an, mais tu sais, de pouvoir démontrer qu'est-ce que c'est, de démystifier le domaine. Je pense que c'est important de le faire auprès du public.
Hey, tu me permets une petite anecdote?
Vas-y!
Tu parlais de Nintendolog puis de nos souvenirs. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, je voulais travailler pour les lignes là, de spécialistes de jeux vidéo que tu pouvais appeler quand tu étais coincé dans un jeu.
Y a-t-il quelqu'un qui a déjà appelé là-dedans?
Je sais pas, mais je voulais tellement être la personne ressource là, à l'autre bout de la ligne. Là, je me suis dit, my God, je serais tellement bon. Puis là, je me mettais à jouer compulsivement là, pour être le meilleur, pour être l'expert un jour. Oh my God, c'était pathétique, ma vie, quand j'étais petit.
Mais personne n'appelle, c'est pour ça que tu as le temps de jouer beaucoup et d'être bon.
Ouais,
il n'y a personne qui appelle, fait que tu fais juste être assis puis jouer.
Ah non, mais je me c'était dans quel film? C'était-tu dans The Wizard, un moment donné, que tu voyais des employés fictifs de cette ligne d'aide-là, là, en tout cas, puis tu voyais ça, là, ça feuilletait, puis ça donnait des conseils, puis j'étais comme, oh mon Dieu, c'est tellement une carrière de rêve. C'est beau, la naïveté de l'enfance.
Ouais, mais t'aurais perdu ta job aujourd'hui, parce qu'avec Google, qui est ton ami, il t'appellerait plus.
C'est un
fait. Ouais.
Ça aurait été de courte durée.
En tout cas, c'était un rêve d'enfant, puis merci de me l'avoir fait partager.
Ah, ben c'est correct, ça. C'est... Daniel, il y a encore un enfant à l'intérieur de toi. C'est beau à voir.
Je pense qu'il va y avoir un enfant à l'intérieur de moi jusqu'à temps que je meure.
Tant que tu ne donnes pas naissance éventuellement à cet enfant-là, ça serait bizarre.
OK, enchaîne donc parce que...
Pense à autre chose.
C'était hey, okay. Comme vraiment weird comme image.
Check bien ça.
On fait un film avec ça s'appelle Junior.
Exactement. Avec Arnold Schwarzenegger. Et Danny DeVito.
Ouais, c'est ça.
Hey, enchaînement pour le prochain sujet. Rêve d'enfant. On a tous déjà joué avec des blocs Lego étant jeune. On a tous trippé à faire des cabanes. Moi, mon trip avec les blocs Lego quand j'étais jeune, c'était de faire des voitures de course. C'était ça mon plaisir. Si j'avais pu, à l'époque, faire des super-héros avec mes blocs Lego ou y avoir passé, c'est clair que ça aurait donné quelque chose comme Lego Marvel Super Heroes. Hein? Un lien. En voici un. Daniel, ta chronique.
Ben oui, en fait, j'ai laissé le choix de ma chronique de cette semaine à mes abonnés Twitter, comme vous avez pu le voir si vous êtes un de mes abonnés. Et pour, en fait.
Ah, j'ai pas vu.
Non, mais toi.
C'est parce que j'ai pas été sur Twitter de la semaine.
Ça, ou c'est parce que tu t'intéresses juste pas à moi. Mais c'est correct, je te pardonne. Mais en fait, pour répondre à la demande de, entre autres, de Matt April et de Jana, je vais faire la critique de Lego Marvel Super Heroes. Un jeu que j'ai aimé, mais envers lequel j'ai des réticences. Puis c'est drôle parce que j'ai les mêmes réticences envers Lego Marvel Super Heroes que j'avais à l'époque de Lego Batman 2. Et vous allez comprendre pourquoi au fil de ma critique. Donc, qu'est-ce que c'est Lego Marvel Super Heroes? Évidemment, je vous jetterai pas par terre. Quoique Jean-Benoît, c'est encore drôle. Vous allez incarner des héros de Marvel dans ce jeu-là. Donc, en fait, l'histoire, c'est qu'au début du jeu, il y a le fameux surfeur d'argent qu'on a pu voir dans les 4 Fantastiques qui se fait déposséder, finalement, de son essence. Pourquoi? Parce que son essence va être concentrée dans des briques cosmiques sur lesquelles vont mettre la main les fameux Doctor Doom, Magneto et Loki. Et donc, nous, notre but, ça va être de contrer leur plan diabolique en finalement combattant une variété d'ennemis de Marvel. Bon, c'est sûr qu'il y a ces trois-là, mais vous allez aussi devoir affronter, par exemple, Venom, Rhino. Il y a aussi, dans les ennemis, il y a Green Goblin. Donc, ce sont tous des ennemis de Spider-Man. Il y a le gargantuesque Galactus. Donc, l'espèce de dévoreur d'univers. Mm-hmm. Donc, il est dans le jeu et vous allez devoir le combattre.
Mais là, Daniel, avant que tu ailles trop loin, parce que là, tu me parles d'un mélange avec les héros de Marvel et Spider-Man. C'est pas comme au cinéma, il n'y a pas des droits de licence séparés, puis là, ben, c'est Sony d'un bord, Marvel de l'autre, puis Spider-Man ne peut pas être avec les Avengers, puis là, ça marche pas.
C'est juste pour les films,
gang, ça. Pis, non, il n'y a pas ça.
Non. En fait, la licence a été accordée par Marvel, donc on pouvait utiliser tous les héros de Marvel. D'ailleurs, ça m'amène à un point. Des héros de Marvel, il y en a beaucoup. Au total, il y en a environ 150 que vous allez pouvoir débloquer et utiliser. Et il y en a qui sont assez obscurs. Il y en a qui me disaient absolument rien. Je ne sais pas si vous, ça vous sonne de quoi. Howard the Duck.
Ben oui.
Ben oui. C'était pas le gars qui était un docteur trophée?
Non.
Non. Oh, Word Duck, non?
Non, mais c'est juste pour vous dire à quel point, quand même, TT Games a fait un travail de recherche qui est quand même intéressant parce qu'ils ont vraiment inclus dans le jeu plusieurs héros et ennemis, en tout cas, qu'on connaît pas tant que ça. Howard the Duck, en tout cas, si je me fie au jeu, est un vieil ennemi de Marvel, mais que tout le monde croyait mort et enterré. Donc, ils l'ont fait ressusciter, et c'est un peu bizarre, en tout cas, de la façon qu'il est introduit dans le jeu, mais vous allez pouvoir le débloquer et avoir un simili-plaisir avec lui, parce que personne ne le connaît. Donc,
ça a été un super film des années 80, ça. C'était un film de George Lucas aussi, Howard the Duck.
Oh, ça se peut. Écoute, moi, ça me dit absolument rien. Quand j'ai vu ça à Word the Duck, moi, j'ai voulu le débloquer parce que j'ai testé la version PS3 et il y avait un trophée qui était relié au fait de le débloquer. Donc, okay, c'est sûr que je l'ai débloqué.
C'est la seule raison qui t'amène à vouloir jouer à Word the Duck, là.
Tout à fait.
OK, c'est bon.
Mais il y a un bazooka.
Aussi. OK. Ça rajoute. Il m'en manque encore pour être vraiment intéressé, là. Continue.
Écoute, c'est parce que Lego Marvel Super Heroes, c'est un jeu que j'ai aimé, mais jusqu'à un certain point. Au niveau de l'histoire, tu sais, on le sait, les jeux Lego, moi, je suis un gros fan, j'ai joué à peu près tous les jeux Lego. Les seuls auxquels j'ai pas joué, mais qui sont dans ma pile de jeux pas terminés, puis qui risquent de jamais être terminés non plus, c'est Lego Indiana Jones 2 et Lego Star Wars 3. Donc, c'est les seuls jeux auxquels j'ai pas joué. Puis, on sait que dans la série Lego, les scénarios se prennent pas au sérieux. Tu sais, il y a beaucoup d'humour, c'est très bon enfant. Mais le problème avec Lego Marvel Super Heroes, c'est qu'on flirte beaucoup entre le sérieux et l'humour. Donc, on sait pas toujours, OK, c'est-tu drôle, c'est-tu sérieux? C'est pas clair, tu sais. Fait que dans ma critique écrite, je le dis d'ailleurs, vous saurez pas nécessairement quel mouvement de bouche faire, tu sais. Est-ce que vous faites un sourire ou vous gardez une face sérieuse, tu sais? C'est pas clair dans le jeu, tu sais. On a voulu garder le sérieux puis la noirceur de certaines séries de Marvel, mais en même temps, on a voulu coller ça à l'ambiance un peu enfantine de la série Lego. Fait que ça fait un mélange qui est un peu bizarre par moment. Je dis pas qu'il y a pas des scènes drôles. Je pense entre autres au personnage de Spider-Man. Bon, tu sais, il lâche une couple de répliques des fois qui sont amusantes, là, mais c'est au niveau de l'humour du scénario, je suis pas sûr qu'on a atteint notre but. Ça m'a beaucoup fait penser à Lego Lord of the Rings, où justement, tu sais, c'était pas clair non plus. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est humoristique? En tout cas, tu sais, au fil des jeux Lego, on a vu que TT Games essaye d'approfondir les scénarios, mais je sais pas si c'est un exercice qui est totalement réussi, parce que c'est justement, tu sais, on sait plus trop où se situer. Moi, je vous recommande très, très, très fortement, parce qu'il y a des voix dans le jeu. C'est devenu une nouvelle tendance là, dans la série Lego depuis quelques jeux. Je vous recommande très fortement d'y jouer en anglais. En français, la traduction est épouvantable. Sérieusement, là, je l'ai changé. D'habitude, j'essaie de jouer en français, tu sais, j'essaie de faire valoir la langue française dans les jeux. Mais là, là, c'est épouvantable. On dirait vraiment des robots qui parlent. C'est pas bon. C'est juste pas bon en français. Jouez-y en anglais si vous pouvez. Puis quitte à mettre des sous-titres, là, mais vraiment, là, c'est vraiment pas bon en anglais. Donc, pas en anglais, en français, pardon. Donc, je vous recommande fortement d'y jouer en anglais si c'est possible pour vous. Ça, c'est pour l'histoire. Au niveau du style de jeu, ben, on révolutionne rien. Et je dirais, on va encore plus loin que ça, c'est qu'on recycle beaucoup, beaucoup de contenu des autres jeux Lego, et on a juste comme mis une couche Marvel dessus. Donc, dans le fond, vous allez encore avoir beaucoup de structures à démolir un peu partout pour récolter des studs, donc qui sont l'espèce de monnaie d'échange du jeu. Vous allez avoir des briques rouges à récolter, des espèces de canis. Là, il y en a une dizaine par niveau au niveau des missions principales. Donc, tu sais, tout ça, là, ça fait en sorte que, bon, tu sais, il n'y a pas grande nouveauté. Puis, en plus de ça, on a vraiment un sentiment de déjà-vu, surtout si on a joué aux autres jeux Lego. Ce qui est encore plus dommage, c'est qu'il y a beaucoup de casse-tête, beaucoup d'objectifs aussi qui ont été vraiment, là, pas juste repris, là, vraiment calqués sur les autres jeux Lego. Tu sais, par exemple, tout amateur de la série Lego sait qu'il y a des surfaces argentées. Donc, ouais. qu'on peut seulement détruire avec certaines habiletés puis certains personnages. Ben, ça a été repris. C'est juste que là, maintenant, ben, au lieu, je pense dans Lego Star Wars, c'était avec des fusils roquettes, là.
C'était les chasseurs de primes qui pouvaient faire exploser les objets argentés, là.
Bon, c'est ça. Tu sais, dans Lego Marvel Super Heroes, ben, ça va être entre autres Iron Man qui va pouvoir les faire exploser avec ses roquettes. Tu sais, donc, les surfaces dorées, on peut encore les détruire à l'aide de matière chaude ou encore avec du feu. Ce qui avait déjà été proposé dans d'autres titres de la série Lego. Mais maintenant, ben, vous allez pouvoir le faire avec, par exemple, la torche humaine, là, de Human Torch, ou encore avec Cyclops. Donc, tu sais, tout ça, ça fait en sorte qu'il y a vraiment un gros sentiment de déjà-vu. Moi, j'ai trouvé que c'était probablement le jeu Lego le moins original de la série, parce qu'on reprend beaucoup, beaucoup d'éléments des autres titres de cette franchise-là. Est-ce que c'est totalement dénué d'intérêt? Non, parce que le style marche encore. On accroche encore. On a du plaisir quand même à récolter tout ce qu'il y a dans le jeu. D'ailleurs, au niveau du contenu, il y en a, là. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'éléments à débloquer puis à récolter. Comme je le disais, il y a 150 héros à débloquer. En plus de ça, moi, j'ai beaucoup aimé les petits clins d'œil à la série Marvel. Par exemple, tu sais, dans les autres jeux Lego, vous aviez des civils à sauver. Dans Lego Harry Potter, c'était des étudiants. Ben, dans Lego Marvel Super Heroes, c'est des Stan Lee en péril que vous allez devoir sauver.
Au moins, c'est drôle, ça, tu sais.
Non, non, mais ça, j'ai trouvé ça cute. C'est bon, tu sais. Puis dans la ville de New York, vous allez voir, vous allez pouvoir aller visiter le. Ben, pas visiter, mais vous allez pouvoir faire face à l'édifice de Marvel. Et vous allez voir, quand vous allez y aller pour la première fois, Stan Lee va être en dehors de l'édifice et le garde ne voudra pas le laisser rentrer. Donc ça fait partie de vos objectifs optionnels. Là. Okay. Si vous voulez récolter les 250 briques d'or, ben vous allez devoir utiliser un personnage pour finalement manipuler le garde. Mais tu sais, la présence de Stan Lee comme ça, j'ai trouvé ça drôle, tu sais, puis c'est le fun. Il y a aussi des missions secondaires avec Deadpool, donc le très volubile et excentrique chasseur de mutants. Les missions secondaires qui sont présentes, qui sont beaucoup plus courtes que les missions principales, mais qui sont, tu sais, qui sont le fun. Et entre autres, une des missions secondaires va vous permettre de mettre la main sur le fameux Howard the Duck.
Ben oui, bien important. Question de même, est-ce que c'est un jeu ouvert? Est-ce que c'est ou c'est vraiment comme des sections par section qu'on va débloquer selon où est-ce qu'on est rendu dans l'histoire?
Ben, c'est un entre-deux, je te dirais. Le monde, moi, je vous recommande très, très fortement de faire la campagne principale, donc de terminer l'histoire dans un premier temps, parce que après, dans le fond, vous allez pouvoir y aller dans la ville de New York, là, tu sais, entre les missions, mais vous n'aurez pas nécessairement accès à un nombre suffisant de personnages ou d'habilités pour pouvoir faire tout ce que vous voulez. Mais une fois l'histoire terminée, ben ce qui va arriver, c'est que la ville de New York va vous être ouverte et là vous allez avoir un paquet d'activités à compléter si vous voulez terminer le jeu à 100% évidemment. Le problème avec la ville de New York, c'est que elle est assez vide, tu sais. Puis il y a des véhicules là qu'on peut voler puis qu'on peut conduire, mais tu sais, vu la vitesse des personnages. Puis encore plus parce qu'on peut voler avec certains héros. Je pense entre autres à Human Torch, à Iron Man, à Thor aussi. Donc ça va beaucoup plus vite. Puis c'est beaucoup plus le fun de voler au-dessus de la ville de New York puis pour aller vers des points précis de la carte là pour compléter nos objectifs. Donc moi, je vous recommande pas vraiment de conduire. Surtout que les contrôles au niveau de la conduite sont absolument exécrables. Vraiment, là, c'est... Moi, je comprends pas, tu sais, je veux dire, ça, c'est pas le premier jeu Lego, là. On a eu le temps de s'adapter avec le temps, mais ça, c'est toujours les mêmes contrôles problématiques avec les véhicules qu'on a inclus. Tu sais, les véhicules tournent beaucoup trop vite, c'est super arcade, là, comme style de conduite, ça va pas bien. Puis, il y a des courses à compléter, là. Quand vous voulez compléter le jeu à 100%, il y a des courses à faire. Mais les courses, vu les problèmes de la conduite, ben ça nous encourage pas à les faire puis encore moins à les terminer. Donc moi honnêtement là, c'est tellement enrageant puis c'est tellement problématique les contrôles au niveau des véhicules que ça, je suis pas sûr que je vais le compléter à 100%. J'aurais le goût de le faire, mais les courses là pour moi là, c'est vraiment un turn off là finalement.
Mais je comprends pas pourquoi ils ont tant de misère que ça avec la conduite dans ce jeu-là, parce que dans Lego City Undercover, la conduite était bien. C'était même le fun.
Ouais, ça, je suis d'accord avec toi. Puis je trouve que Lego City Undercover, au niveau de la ville, tu sais, au niveau de l'ambiance, moi, je trouve que c'était très bien. Par contre, au niveau de New York, tu sais, c'est super vide, là. Oui, il y a beaucoup, beaucoup de missions, il y a beaucoup de choses à débloquer, mais au niveau de l'ambiance de la ville, tu sais, il y a comme pas de vie, c'est vraiment vide. Donc, je trouvais que c'était un point négatif pour moi. Puis les contrôles des véhicules, écoute, je sais pas pourquoi, ça a peut-être mieux fonctionné au niveau de Lego City Undercover, mais au niveau de Lego Marvel Super Heroes, vous allez retrouver les mêmes contrôles problématiques que d'autres jeux de la série. Puis au niveau du vol, c'est pas vraiment mieux. Ça m'a vraiment déçu parce que c'était un des points négatifs que j'avais soulevé dans Lego Batman 2. Je trouvais que quand on volait avec Superman, ça allait pas bien. Et on a vraiment repris ces mêmes contrôles-là. Écoute, imaginez avoir Superman dans Lego Marvel Super Heroes, mais remplacez-le par Thor ou Human Torch ou whatever. Ça va pas bien. Puis le problème là-dedans, c'est parce que nous, on est tenté de, mettons, de prendre l'altitude ou de descendre dans les airs avec un bâton analogue, mais non, vous devez faire ça avec deux boutons à la place. Puis les bâtons analogues, finalement, il y en a un qui sert à contrôler la caméra, puis l'autre qui sert à bouger son personnage. Fait que c'est comme compliqué, il faut vraiment s'habituer. Puis il y a des courses aussi dans les airs là, à faire, là, des espèces de courses où vous allez devoir passer dans des anneaux. C'est vraiment pas évident, c'est frustrant. Pour moi, là, les contrôles, c'est un des points négatifs du jeu, parce que ça a été calqué de d'autres jeux, d'autres jeux Lego. Pas pour le mieux.
T'es-tu en train de me dire, Daniel, que Lego Marvel Super Heroes reprennent les superbes missions de Superman 64 de traverser des anneaux, puis tu sais que c'est donc ben palpitant? C'était-tu vraiment une bonne idée de faire ça? Je ne pense pas.
Ben, écoute, dans Lego Marvel Super Heroes, on nous vend plus ça comme des courses à obstacles, là, Écoute, c'est pas l'idée du siècle, mettons. Mettons que moi, j'aurais remplacé ça par d'autres choses. Mais heureusement, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas beaucoup. Puis, il faut pas se concentrer là-dessus parce que il y a un paquet d'autres objectifs, puis une mission optionnelle, puis d'activités secondaires qui sont vraiment plus le fun. Tu sais, j'ai parlé tantôt des missions secondaires de Deadpool, qui sont vraiment des petites missions secondaires le fun. Tu sais, les personnages à débloquer sont le fun. Trouver des briques d'or un peu partout en complétant des casse-têtes qui sont souvent, en tout cas, je dirais pas plus développé, mais mieux conçu que ceux des missions principales. Ça, c'est le fun aussi, tu sais. Attardez-vous pas aux courses à obstacles, en tout cas, entre guillemets, des heures, parce que ça reflète pas finalement la qualité du contenu de Lego Marvel Super Heroes.
J'ai une question pour toi, Daniel.
Yes.
As-tu essayé le mode coop?
J'ai pas essayé le mode coop, malheureusement.
Parce que Daniel n'a pas d'amis. Hein? Ouais. C'est pas vrai. Vas-y, Daniel, vas-y.
T'es baveux à soir.
Vas-y, vas-y. J'ai assez dit niaiserie, vas-y.
Moi, là, je vais me retenir, là. Mais après le show, je m'en vais dans un coin pour pleurer en position fœtale.
OK.
Je veux juste te le dire.
C'est bon, je vais filer cheap tantôt, pas en boule dans un coin chez nous.
Tu vas t'assumer?
Oui, oui, oui.
OK, c'est bon. Mais je sais que le mode coop, ce qui est bien avec, c'est que dans le fond, c'est divisé au niveau de l'écran. Puis, dans le fond, ça suit les actions des personnages. Pas des personnages, mais des joueurs. Puis, ça a l'air relativement bien de ce que j'ai vu. Mais malheureusement, j'ai pas pu le tester. Parce que pour moi, un écran divisé, j'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. Puis, on a toujours pas l'option du jeu en ligne là, dans ce jeu-là. Donc,
je t'en donnerai des nouvelles. Je vais l'avoir sur la prochaine génération de PlayStation.
Oh, nice! Ben, écoute, c'est un bon jeu. Moi, j'ai aimé ça. C'est juste que je trouve ça dommage qu'on ait juste, en fait, amené puis calqué des problèmes des autres jeux au lieu de chercher à les améliorer. C'est juste ça que je reproche à Lego Marvel Super Heroes. Parce que c'est pas un mauvais jeu. J'ai de l'intérêt pour le terminer à 100%. Le terminer à 100%, c'est une question là de au moins 20 à 30 heures de jeu facile. Là, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de stock. Mais c'est ça. Je déplore juste le fait que on a inclus les mêmes contrôles pour les véhicules, les mêmes contrôles pour le vol. C'est problématique. Y a des problèmes aussi de caméra. Là. Des fois, la caméra elle se positionne vraiment mal par rapport à l'action. Donc, c'est juste ça que je déplore. T'sais. Je me dis, la série Lego, ça fait longtemps qu'elle existe. Comment ça se fait qu'on n'est pas encore capable de corriger des lacunes qui sont assez basiques, t'sais, ou qui sont de base? Je comprends pas.
Ça a toujours été problématique. Puis moi, j'étais un fan de la série Lego depuis le jour 1, là, depuis Star Wars Lego. Puis après ça, j'ai joué à toutes les autres. Puis c'est un jeu que je prends plaisir à jouer avec ma femme. On va acheter ce jeu-là, puis on va le finir à 100%, puis on va le jouer en coop tout le temps. Puis c'était vraiment problématique de jouer en coop pour la raison simple que. Avant Indiana Jones 2, Lego Indiana Jones 2, tu pouvais pas t'en aller trop loin de l'autre personne. Si tu t'en allais trop loin, il y a une personne qui disparaissait puis qui se faisait comme réapparaître plus proche. Le jeu décidait juste, OK, ben toi, t'es trop loin, on va te faire disparaître, on va te faire réapparaître plus proche. Ou tu t'essayais de t'en aller chacun de ton coin de l'écran, puis là, ben ça se battait pour savoir de quel bord que ça va aller, puis la caméra restait comme prise au milieu, puis rien qui se passait. Dans Lego Indiana Jones 2, ils ont décidé de commencer à faire la séparation de l'écran au centre en diagonale. Mm. Là, tu peux t'en aller super loin, mais là, la caméra est pourrie parce que si tu as besoin de sauter sur un petit espace, mais là, tu vois pas nécessairement l'espace où faut que tu sautes comme il faut. Fait que souvent, tu sautes à côté. Fait qu'à partir de ce moment-là, il y a eu des problèmes de caméra. Avant, c'était des problèmes de pouvoir t'en aller assez loin pour faire des choses séparées. Puis après ça, ça a tombé avec des problèmes de caméra. Les problèmes avec les véhicules, ça a toujours été. Tu as l'impression qu'ils savent juste pas conduire ou que même si tu as un auto qui a l'air super rapide, c'est comme si tu conduisais un tracteur à gazon. Puis, tu sais, puis le jeu, c'est toujours la même chose. Puis tout ce qu'ils ont fait, c'est rajouter des objets à trouver pour te donner plus de temps de jeu. Fait qu'à un moment donné, j'ai décroché. On était vraiment fans. Comme je te dis, je les achetais tous un arrière de l'autre. J'ai décroché, moi, à Lego Harry Potter. Parce que là, je trouvais que c'était trop, là. Là, c'était comme, garde, c'était énorme. Il y avait trop de stock à trouver. À un moment donné, ça vient même plus le fun. Puis le jeu était buggé en plus. Il y avait un objet qu'on n'a jamais été capable de trouver. Fait que j'ai décroché. Puis là, on jouait récemment à Lego Super Hero, DC Super Hero, le Batman 2. Puis ça a été la même chose. Superman, il est super plate à faire voler. Il faut que tu ramasses des objets dans les airs. Puis c'est juste la caméra plus le mix de comment Superman vole. C'est pas du tout le fun à faire. Fait que j'ai vraiment hésité à acheter Lego Marvel juste à cause de ça. Parce que ils sont en train de me faire décrocher de la franchise. J'ai adoré Lego City Undercover. Mm-hmm. J'ai vraiment aimé ce jeu-là, mais ça, sont en train de me faire décrocher des jeux de super-héros. Je l'aurais acheté la journée qui est sortie avant, puis celui-là, je sais même pas si je vais aller le chercher, juste parce que à un moment donné, c'est toujours pareil, puis ils sont rendus à essayer de nous faire des trop de choses pour ce que le jeu est supposé être.
Ben, c'est ça. Est-ce qu'il y en a trop de jeux Lego? Est-ce qu'on en sort trop? C'est une bonne question. Je pense que c'est une série qui est super populaire encore, puis je pense que... Mais quoi qu'au niveau de Lego Marvel Super Heroes, je suis pas si sûr que ça que les ventes sont au rendez-vous, parce qu'il y a eu beaucoup de jeux à succès qui sont sortis en même temps, dont un certain Grand Theft Auto 5. Je sais qu'on s'adresse pas au même public, quand même... ouais, mais on sait qu'il y a certains parents qui l'ont acheté à leurs enfants. Fait que, tu sais, il y a eu quand même beaucoup de jeux. Il y a eu Skylanders aussi qui est sorti. Ouais. Donc,
Batman, il y en a plein, là.
C'est ça, tu sais. Fait que j'ai comme l'impression que ça va peut-être passer un peu sous le radar. Je le dis, j'ai soulevé plusieurs points négatifs. C'est pas un mauvais jeu. C'est un jeu qui est quand même intéressant. C'est juste qu'on revient avec les mêmes concepts qu'avant. Donc, si vous attendez à une révolution, oubliez ça, là. Vous allez retrouver les mêmes éléments qu'avant. Tu sais, moi, tu parlais, Luc, de Lego Batman 2. Tu sais, Superman, là, c'était avec lui que tu pouvais faire exploser des surfaces dorées avec son rayon.
Avec ses yeux. Avec ses yeux.
Ouais. Ben, c'est la même affaire, là. Tu sais, je veux dire, prenez Cyclops, là, puis faites brûler des surfaces dorées. Vous allez avoir l'étrange impression que c'est Superman, tu sais. C'est parce qu'il y a le même type de laser, puis en tout cas, ça donne le même résultat. C'est ça que j'ai trouvé dommage. Moi, j'avais vu des critiques, puis il y en a qui ont dit que c'est le meilleur jeu Lego à vie. Non, je vous le dis, là, non. Puis ça vient d'un fan de la série. Je pense que Lego City Undercover lui est de loin supérieur. Je pense aussi que Lego Lord of the Rings puis Lego Harry Potter lui sont supérieurs aussi. Donc, c'est un... Moi, j'ai eu du fun jusqu'à un certain point.
C'est une location?
Ça, c'est 40 heures de jeu si tu veux le finir à 100%.
Ouais, mais si tu veux voir si tu as encore le goût de jouer à Lego.
Ben, écoute, moi, je pense que le prix quand même auquel il est offert est raisonnable. Tu sais, dans le sens, là, il est offert à 50$ sur toutes les plateformes. À part, je pense, peut-être PC.
PC, il est 29$. Il est 30$ sur PC.
Bon, mais mettons pour les consoles là, de salon. Donc, Wii U, Xbox 360 puis PS3, il est 50$. Donc, tu sais, c'est pas un mauvais achat. C'est juste qu'il faut pas avoir d'attente trop élevée parce que c'est clair que vous allez être déçu. Donc, je vous dirais, pour moi, ce serait un achat à condition d'avoir des attentes tempérées.
Moi, je dirais, attendez après le temps des fêtes, il va tomber à 20$.
Il va tomber. Ah, ça, c'est clair. ça, c'est clair qu'il va tomber de prix, là.
Ouais,
fait que, mais c'est pas un... Tu sais, je vous dirais, c'est pas un à vous pitcher, là. T'sais, Lego City Undercover, je vous aurais... Ben, en fait, je vous l'ai dit dans ma critique écrite, puis toi, tu l'as dit au niveau du podcast, Luc. Tu sais, allez l'acheter ça, oui, parce que ça vaut vraiment la peine. Lego Marvel Super Heroes, je pense que vous pouvez quand même attendre.
Ouais.
Ce qui est le fun avec TT Games, c'est que on sait de sources sûres qu'ils connaissent l'option copier-coller.
Ouais.
C'est chiant, mais c'est vrai. C'est tellement vrai.
T'as l'impression depuis un bout que c'est juste des skins qu'ils mettent par-dessus. Tu sais, c'est comme un nouvel habillage ton personnage. Pour le reste, le jeu, je veux dire, les environnements sont un peu différents, mais c'est la même mécanique, c'est pareil. On réinvente pas la roue. Il serait dû pour prendre une petite pause, puis peut-être juste réévaluer un peu la mécanique de jeu, puis essayer d'amener quelque chose de différent un peu.
Peut-être juste lâcher le Lego quelques temps, là, de se faire un autre projet, puis après ça, revenir, question d'avoir l'esprit frais, là.
Mais ça arrivera pas parce qu'il y a un certain film de Marvel là, qui est très attendu, qui va réunir d'autres super-héros là, que les Avengers, genre Guardians of the Galaxy.
Je
dis ça de même, là, mais la fin de l'histoire de Lego Marvel Super Heroes donne un bon indice sur le prochain jeu Lego.
Ah ouais?
Ouais.
Ah, on va être pognés pour jouer.
Ce qui est juste drôle aussi, c'est si tu regardes, c'est TT Games qui l'ont développé, mais c'est Warner Brothers Interactive qui le distribue, qui le publie. Ouais. Puis ouais. Warner, c'est propriétaire de DC Comics. C'est juste un petit peu.
Ouais, c'est un peu weird.
Ouais, je me demandais ça quand tu faisais ta critique. Je disais, mais ouais, c'est Wiki, ouais, c'est qui publie le jeu. Je dis, ça peut pas être Warner, tu sais. Ben oui.
Ils font de l'argent avec une entité adverse. C'est très drôle.
Ben, ils l'ont fait avec Star Wars, mais à part Star Wars puis Indiana Jones, tous les autres jeux qui sont sortis sur par TT Games, les jeux de Lego, ça appartient tout à Warner. Batman, Seigneur des Anneaux, Harry Potter, ça appartient tout à Warner Brothers.
Mais on se serait attendu peut-être à Disney, là, tu sais, Marvel.
Ben oui.
Ouais, mais bon. C'est ça. C'est sûr.
On passe à toi, Luc, avec ta critique. Et là, ben, nouveauté dans la réalité augmentée. On s'est dit, pourquoi pas essayer un autre niveau de gaming. Aller peut-être dans le rétro, c'est très populaire de ce temps-là. Et tu sais, on en a joué des jeux dans notre passé. Donc, ça va peut-être nous donner peut-être plus de temps pour tester les nouveautés et aller plus profondément. Un petit jeu rétro là, qu'on a fait dans notre enfance, une fois de temps en temps, je pense que ça peut pas faire de tort. Et Luc, tu commences ça en grand là, avec Dragon's Lair.
Qui de mieux qu'un vieux crouton pour faire un jeu rétro?
Oui, ben oui, parce que toi, tu peux dire, je l'ai joué dans le temps quand tu t'es sorti.
Oui, pour de vrai, je l'ai joué dans le temps à l'arcade pendant que la machine était flambant neuve. Mais non, c'est ça. Mais c'est un jeu rétro, mais c'est un jeu aussi que j'ai acheté récemment sur le Xbox Live, le magasin Xbox Live. Donc, c'est un jeu qui est sur le Xbox Live Arcade qui est sorti dernièrement. Je pense qu'il est 10$ si vous allez voir. Là, c'est pas tellement cher. Donc, Dragon's Lair sorti le 19 juin 1983.
Ça te rajeunit pas.
Ça fait longtemps. Donc, mais c'est ça.
Pas Dragon... né, là. J'étais hein? pas né.
Je veux pas t'écœurer, Luc, mais j'étais pas né à cette époque-là.
Non, je sais, t'étais peut-être même pas dans les pensées de tes parents encore.
Ah oh non, j'étais dans les pensées.
OK, ben moi, j'étais là, et bien vivant, et je passais beaucoup de 25 sous dans les arcades. Je vais vous parler de d'autres jeux qui ont marqué mon enfance, qui sont encore super le fun aujourd'hui, mais Dragon's Lair en est un qui était vraiment... totalement différent parce qu'on était habitué dans ce temps-là aux jeux, bon, plus ou moins beaux graphiquement. C'était limité avec ce qu'on pouvait faire. Et puis, ce que Don Bluth a fait avec une compagnie qui s'appelle Cinematronics, c'est un jeu qui est finalement un. Des fois, on dit les jeux aujourd'hui, ah, c'est plus un jeu, c'est un film interactif. Mais Dragon's Lair, c'était vraiment ça. C'était un film interactif. Don Bluth, qui était un ancien animateur, un ancien dessinateur chez Disney, qui était parti à son compte, puis il s'est fait approcher par un gars qui a parti justement à Cinematronics, qui a dit, regarde, moi j'aimerais faire un jeu vidéo, mais j'ai besoin de, bon, un film et tout ça pour faire ça. Et puis ça a donné Dragon's Lair. Ce que c'était Dragon's Lair dans le temps, c'était tout simplement un disque laser. Donc oui, ceux qui sont assez vieux, qui ont connu, avant les DVD, il y avait les disques laser. que c'était à peu près la grosseur encore d'un 33 tours. Il y a plein de monde qui ne savent pas de quoi je parle, mais c'est un gros disque. C'était, ça avait peut-être quoi 10-12 pouces de grosseur. Puis c'était dans un lecteur laser Panasonic. Et puis, tout simplement, ce qu'on faisait, c'est que bon, le film jouait. Et puis, on avait certaines scènes clés où il fallait faire un mouvement. Il fallait décider qu'est-ce qu'on allait faire à notre héros. Notre héros, c'était Dirk le Chevalier. Fallait qu'il sauve une princesse. Non, c'était pas Mario. Dans ce temps-là, Mario sauvait pas de princesse, mais Mario était plus que genre contre Donkey Kong ou avec son frère dans un jeu de plateforme. Mais bon, Dirk fallait qu'il sauve la princesse Daphné. Et ce qui est magique de ces deux personnages-là, c'est ils sont pas nécessairement brillants, mettons. On a fait la princesse blonde est très nounoun, et puis Dirk est pas nécessairement beaucoup plus brillant. Je vais vous expliquer un peu pourquoi plus tard. Donc Dragon's Lair, c'est à peu près 30 niveaux différents. Il y a à peu près 30 scènes différentes avec des scènes de mort différentes selon le où on est dans l'histoire. Donc c'était vraiment tout animé, vraiment comme si vous regardiez un dessin animé de Disney. Et puis bon, on commençait l'histoire, si on rentre dans un château et fallait se rendre à la princesse qui était cachée dans l'antre du dragon, donc le Dragon's Lair, où était gardé par justement un dragon, était dans une bulle, et puis bon, le dragon était là pour la garder là, mais c'était bon un sorcier qui gérait un peu comme ce château-là. Donc, on a des scènes différentes. Il fallait vraiment choisir rapidement. On n'avait pas, dans le temps, on n'avait pas vraiment d'indication à part certaines petites choses. Mettons, s'il fallait sortir dans une porte précise, la porte, elle clignotait rapidement en jaune, puis ça nous disait que c'était là, fallait aller. Mais si la porte clignotait jaune, puis t'hésitais un peu, t'étais mort. Alors, il passait beaucoup de 25 cents dans ce temps-là, et c'est drôle, on croyait que c'était le jeu était impossible à finir, mais si t'avais une mémoire un petit peu allumée, c'était facile de se rappeler quel mouvement on fallait faire dans telle scène, parce que c'était toujours pareil. La seule chose qu'on a fait pour avoir plus de scènes, il y a certaines scènes qu'on a tout simplement virées de côté. Donc, au lieu que la porte soit à gauche, elle était à droite, mais c'était exactement la même scène. Puis c'est là que je dis que je trouve que Dirk n'est pas vraiment brillant, parce que des fois, on jouait une partie et on avait exactement la même scène deux fois dans le jeu, elle était juste virée de côté. Puis il ne se rappelait pas que la fois d'avant, il n'avait pas fallu qu'il fasse ce qu'il faisait là, puis finalement il mourait, tu sais. Et tu dis, ouais, finalement, hey, la cruche, tu te rappelles pas, là, deux scènes, j'ai fait exactement la même affaire, puis tu t'en rappelles pas.
Fait que finalement, bon, TT Games sont pas les seuls à connaître le copier-coller.
Non, ben, dans ce temps-là, c'était, je veux dire...
C'est que c'était pas la commande, là, mais, tu sais.
C'est ça, mais on avait c'était limité à ce qu'on pouvait faire, puis c'était vraiment ça. Donc, c'était vraiment demandant pour le lecteur laser, parce qu'à chaque fois qu'on faisait un choix, ben là, fallait que le laser se déplace pour aller lire la bonne scène. Donc, si on allait à gauche, puis c'était vraiment à gauche qu'il fallait aller, ben là, on passait à la prochaine étape. Si on allait à droite, ou en avant, ou en arrière, puis c'était à gauche où il fallait aller, on mourait, puis c'était tout. Mais c'était vraiment amusant à jouer, parce qu'on avait vraiment l'impression d'être dans un film. Dirk était vraiment un chialeur invétéré. Ceux qui regardent des parties de tennis puis qui trouvent que Maria Sharapova crie tout le temps, Dirk est à peu près semblable, avec des cris des fois aussi aigus. C'est pas vraiment le plus viril des chevaliers que j'ai connu, mais c'est vraiment drôle pareil. Il y a beaucoup d'humour. Les scènes de mort sont pas nécessairement... c'est pas dégueulasse. C'est pas sanglant. C'est vraiment toujours drôle. Il se fait serrer par un serpent. Il tombe dans un trou. Si on passe toutes nos vies, il est en avant de nous. Il nous regarde avec un air bête en disant... avec un air genre, t'es vraiment en poche. Puis il tombe en squelette. Puis là, on revit, on recommence une autre scène. C'est un jeu qui était vraiment amusant à jouer, puis on le jouait pas nécessairement toujours juste pour le but de le finir. C'était juste parce que c'était beau, c'était nouveau, c'était différent. Je me rappelle quand j'ai commencé à jouer là, il y avait des jouer à ce jeu-là, il y avait des files de monde qui attendaient pour dépenser 50 sous, parce que c'était 50 sous jouer à ce jeu-là qui est sorti. Mais c'est vraiment incroyable. L'histoire est assez simple. On passe à travers des niveaux différents. On va affronter des serpents, des fantômes, le roi lézard, des squelettes, des chauves-souris. On va, à un moment donné, sauter sur une plateforme, puis la plateforme va tomber littéralement dans une espèce de puits. Puis là, il y a des étages, juste des petits ponts qui restent en morceaux qu'on peut sauter dessus, décider qu'on arrête là. Ça change vraiment rien au jeu. Vous pouvez arrêter au deuxième ou au quatrième, puis vous allez aller à une prochaine scène. Pareil, ça change rien où on saute. Mais c'est le fun pareil. Il y a toujours la réaction de Dirk qui voit qui saute sur la plateforme. La plateforme casse en morceaux. Puis là, il y a un trou en avant de lui. Il saute, puis là, il sort de la porte, puis on s'en va dans le prochain niveau. Mais peu importe si on fait 10 fois la même scène de sauter sur une plateforme, la plateforme casse, puis là, on voit vraiment le morceau qui tombe en bas où ce qu'on était dessus. Il y a toujours la même réaction. Il est surpris à chaque fois, même si ça fait 5 fois qu'il le fait, parce que c'est toujours la même animation. Oui, on recycle les animations parce que, bon, on n'avait pas le choix. On avait de l'espace limité, puis du temps limité aussi pour le faire, puis surtout un budget limité pour faire ce jeu-là. Mais c'est vraiment un jeu qui a changé un peu l'industrie du jeu vidéo pour le temps. C'est un des 3 jeux que le Smithsonian à Washington garde de côté. Il y a Pac-Man, il y a Pong, puis il y a Dragon's Lair, parce que c'est des jeux qui ont vraiment changé un peu l'image du jeu vidéo dans le temps. Puis pour 1983, c'était quelque chose qui avait été du jamais vu. Aujourd'hui, on a des jeux qui sont presque photoréalistes dans ce temps-là. Ça, c'était vraiment le summum qu'on pouvait avoir, même si c'était pas un jeu où on pouvait contrôler notre bonhomme comme on voulait. Là, c'était des mouvements précis qu'il fallait faire si on voulait pas mourir, si on faisait un tant que soit peu d'autre chose que ce qui était prévu. C'était une mort certaine. Donc, le but, c'est d'aller sauver Daphné et battre le dragon. Daphné, comme je vous dis, est vraiment pas toute là. C'est pas la fille la plus brillante sur la planète. Mais bon, on s'en contente comme princesse. Mais c'est hyper bien dessiné. C'est humoristique. Si vous avez jamais joué à Dragon's Lair, je vous dis, allez le chercher. Il est disponible sur Steam, il est disponible sur PS3, il est disponible sur le Xbox Live Arcade. C'est pas tellement cher, c'est pas tellement long. Si vous jouez le jeu puis vous mourrez pas parce que vous êtes super bon, ou pour vous avez mis toutes les indications de faut faire quoi quand, parce que dans le jeu Xbox, on a des petites flèches qui nous disent va à gauche, va à droite, va en haut, va en bas, paye sur l'épée. On peut vraiment avoir exactement les indications de qu'est-ce qu'il faut faire. Ça dure à peu près 12 minutes, 12 à 15 minutes, je passe ouais. À travers du jeu.
Puis toi, tu as dépensé des 25 cents, des 25 cents, des 25 cents à longueur de journée quand tu étais jeune, ça dure 12 minutes.
Ouais, mais on mourait tout le temps parce que, bon, non, c'est pas, fallait pas gérer à gauche. OK, ben, faut-tu gérer à droite, faut-tu gérer en avant, faut-tu que je fasse mon épée. Parce qu'il y a vraiment des scènes où ça pourrait être n'importe quoi. Il y a même des scènes où on essaie de tromper le joueur en faisant clignoter la scène en avant, mais si tu vas là, tu meurs. Faut que tu ailles à la porte à côté. Il y a des scènes vraiment comme. Il y a un exemple, on rentre dans une porte, puis il y a une bouteille, c'est marqué Drink Me, puis la bouteille à clignote. Ça veut dire bois-moi. Si tu vas boire la bouteille, tu bois ça, puis tu te transformes en sable. tu meurs, c'est tout. Faut que tu ailles à la porte qui est à droite à la place. Fait que c'est pas toujours évident. Des fois, tu penses qu'il faut que tu utilises ton épée, mais faut juste que tu te tasses parce que le serpent ou la bébite va te manger ou parce qu'elle réagit plus vite que toi. Fait que c'est pas nécessairement ce qui semble être évident qui est ce qu'il faut que tu fasses, mais vous allez jouer au jeu, surtout dans votre salon, c'est quand même moins intimidant que d'être en avant de la machine d'arcade et avoir du monde qui te regarde jouer et tout ça. Vous allez apprendre les moves, puis à un moment donné, les mouvements, puis après, deux fois, vous allez, OK, c'est ça. Puis là, vous allez les mémoriser. Il n'y a pas tant de niveaux que ça. Comme je disais, il y a 30 niveaux différents. Là, puis on va pas tous nécessairement les voir dans le cours d'un jeu. Ils vont nous mettre certaines scènes, puis après ça, vous allez vous ramasser au niveau du dragon. T'sais. Fait que c'est pas un jeu qui est hyper long, mais c'est vraiment le fun à jouer. Il y a des petites choses que j'ai remarquées, que j'avais pas remarquées dans le temps de l'arcade, c'est que des fois, il y a des scènes qui s'enchaînent une après l'autre, puis ça marche comme pas, là, tu sais. Il y a l'eau, la couleur de l'eau est pas pareille, ou le bouillonnement est pas à la même place, ou il y a pas de bouillon avant, puis dans la scène d'après, il y a un gros bouillon d'eau, tu sais. Il y a des affaires qui marchent pas nécessairement, mais c'est vraiment un plaisir pour les yeux, puis c'est juste le fun à jouer. Fait que je vous dirais, si vous avez jamais joué à ça, c'est même disponible sur le iPod en version HD ou le iPad en version HD. Essayez ça, vous allez voir, c'est vraiment amusant. Il y a Dragon's Lair 2 aussi qui existe. Il y a ceux qui aiment un peu le style. Il y a Space Ace aussi qui est un jeu du même genre, sauf qu'il se passe dans l'espace, Space Ace. Donc, c'est vraiment intéressant. Il y a eu des ports sur à peu près toutes les consoles qui se font depuis 1983. Ça a sorti sur le Coleco, ça a sorti sur l'Atari 2100, le Commodore 64. Il y a des versions sur le PlayStation 2, sur le GameCube. Ça a même sorti en DVD où on joue avec la manette du lecteur DVD gauche-droite. Épée, c'est le Select au milieu. Vraiment pas évident à jouer, là. Mais c'est disponible sur à peu près n'importe quoi. C'est pas nécessairement difficile à trouver, mais c'est sûr, si on va dans le temps sur les Coleco et ces choses-là, c'était pas le Dragon's Lair qu'on connaissait à l'arcade. C'était vraiment un jeu de plateforme normale avec un épée et tout ça là, qui ressemblait plus à un jeu régulier. C'était pas cinématique du tout. C'était vraiment, on contrôlait le bonhomme vraiment avec la manette comme un jeu régulier.
C'était... Ouais, il était archi dur de ce que j'ai entendu dire. Là, ouais. J'ai vu des vidéos, puis semblait-il qu'il était hyper lent, très très dur. Le personnage vulnérable parce qu'il fallait calculer le temps de mouvement, de réaction du personnage qui était comme anormalement long. Ouais. Quand moi tu me dis je veux parler de Dragon's Lair, je fais comme ben écoute, tu t'embarques vraiment dans quelque chose de pénible là. On va avoir du fun là, ça va être drôle de planter un jeu. Puis là, non, c'est pas ça. C'est... Là, il a fallu que je fouille pour trouver celui dont tu me parlais. Là.
Non, c'est l'original. Il y a plein de ports qui ont été faits sur plein de machines différentes, des petites consoles et tout ça. À date, à part les versions récentes, il y a vraiment jamais rien qui est arrivé à la cheville du jeu original, à part peut-être une version monnée sur l'Atari ST que j'avais eue, là on recule loin, on recule en 89, là, qui était vraiment sur plein de disquettes, puis il fallait changer de disquette à tout bout de champ, c'est des petites disquettes 3,5, puis je pense qu'à chaque deux scènes, il fallait changer de disquette. Des fois, tu revenais à disquette 1, tu savais qu'il te remettait un niveau que tu avais déjà vu, tu sais, mais c'était vraiment plus cinématique, mais les graphismes sont un petit peu moins beaux. C'était plus un peu plus pixelisé. Mais ça se jouait quand même. C'était le plus proche que j'ai vu. Mais maintenant, c'est vraiment les versions sur le Xbox Live Arcade ou des choses comme ça. C'est exactement le jeu qu'on jouait à l'arcade dans le temps. C'est vraiment, vraiment amusant. Si vous avez jamais essayé ça, je vous dirais donnez-y une petite chance. Vous allez voir, c'est le fun. Puis c'est pas tellement cher, mais c'est pas tellement long. Si on chiale des fois des Call of Duty à 60$ qui durent 10 heures, ben ça va vous coûter 10$. Ça va durer 12 minutes si vous êtes vraiment bon.
Luc, merci d'avoir parlé de Call of Duty. Je suis en train d'oublier. Je peux-tu faire juste une insertion après ça? Tu redécolleras avec ton affaire.
Vas-y, j'ai pas mal fini.
OK. J'étais chez Binox. À un moment donné, on est dans le département de la recherche pour les bugs, tu sais, contrôle de qualité. Et c'est deux filles qui nous parlent. Écoute, on fait telle affaire. Elles nous montrent des exemples de personnages complètement explosés, tu sais, qu'il y a des bugs dans ceux-ci. Puis là, oups, tu sais, il explose au complet. Là. C'est comme si le personnage était complètement difforme. Puis elle nous montre des séquences comme ça. Là, elle dit, tu sais, devinez combien est-ce qu'on en a trouvé dans un jeu comme Skylanders. Ben, on dit, je sais pas, moi, 20 000, 15 000. Elle dit non, ben, c'est autour de entre 120 et 125 000. Fait que là, on fait comme, oh boy, OK, c'est beaucoup. Là. Il y en a beaucoup des bugs comme ça, des rapports complets de A à Z qui ont réparé. Là, elle dit, oui, mais tu sais, pas tant que ça. Dans un Call of Duty, on en retrouve autour de 225-240. Fait que là, le monde fait comme, ah, OK. Et là, deux secondes après, on sort de la salle, j'ose avec un des gars qui travaille chez Binox, puis je dis, ouais, 245 000 bugs dans un corridor, ça fait du bug au pied carré. On a tellement ri.
Non, mais c'est sûr.
Tu sais, un jeu à la Skylanders, un monde semi-ouvert versus un corridor à la Call of Duty, je trouve ça tellement drôle qu'il y ait plus de bugs, là, c'est fou, là.
Ouais, ben, ça, surtout que c'est une recette qu'ils reprennent tout le temps, à un moment donné, tu sais. Mais bon, qu'est-ce que tu veux?
Ceci étant dit, Luc, c'est une location, Dragon's Lair.
Ouais, si vous avez de la misère à louer ça, c'est plus un achat si c'est quelque chose qui vous intéresse. C'est vraiment un dessin animé interactif. C'est rien d'autre que ça. Il y a Dragon's Lair 2 aussi qui est disponible. Je pense qu'il est disponible sur le PSN, PlayStation Store. Il n'est pas disponible sur Xbox Live encore, ça va peut-être venir. Puis il est disponible sur Steam, parce que sur Steam, il y a tout. Donc, c'est la suite. C'est un peu moins bon, Mais bon, on retrouve encore Dirk qui est marié cette fois-là avec Daphné. A sûrement pas été dur à convaincre. Crush comme aller dans le jeu, le premier jeu, ça a pas dû être dur d'y demander sa main. Puis ils ont plein d'enfants, puis ça, puis ils repartent à l'aventure pour d'autres autres, parce que bon, c'est comme un peu Peach dans Mario. Daphné se refait enlever une deuxième fois. Et c'est ça, mais c'est bien. C'est le fun à jouer. Le seul bémol que je trouve du jeu sur Xbox Live, c'est peut-être pareil sur les autres, c'est si on perd toutes nos vies, on nous demande si on veut continuer. Et puis, on a je sais pas pourquoi, décidé de faire le bonhomme en modélisation 3D. Et ça fait tellement cheap. Ça, on dirait que c'est moi qui ai dessiné le bonhomme en 3D.
Ça, c'est le features qui, dans le temps, c'était comme le money shot, là, la patente qui faisait que qui impressionnait le monde, mais ça a mal vieilli.
Ouais, mais non, c'était, ça n'existait pas dans ce temps-là. Là. Ça a été refait pour la version. Non, parce que Dragon's Lair à l'arcade, tu perdais, c'était 3 vies, je me rappelle. Maintenant, sur les plateformes, on a 5 vies, mais dans le temps, si je me rappelle, c'était 3 vies. Puis quand tu mourais, tu mourais. Si je me rappelle bien, tu n'avais pas la chance de remettre un 25 sous et de recommencer où ce que tu étais. Fallait que tu recommences au début. Tandis que sur les plateformes comme on a présentement, ben, tu peux juste faire un continue puis tu continues ce que tu étais rendu. Mais c'est ça, c'est ce personnage-là qu'ils ont rajouté qui te regarde en se dandinant un peu. En disant, puis là, c'est marqué continue ou retourner au menu. Il est vraiment mal fait. Il est pas beau. Il est pas convaincant. Il aurait dû juste prendre une image du jeu ou de prendre juste une animation dans le jeu puis la rouler en boucle au pire. Je sais pas, mais ça fait juste comme ça comme pas rapport avec le jeu. Mais ce qui est le fun aussi dans les versions comme la Xbox Live, il y a un mode spectateur. Fait que vous pouvez juste faire jouer le jeu puis il fait tous les bons moves puis c'est finalement le film qu'on regarde comme ça devrait être.
Okay.
Fait qu'il y a aussi le mode spectateur. On peut voir l'histoire aller jusqu'à la fin et ça peut donner une idée un peu quand on est perdu à... Bon, c'est qu'est-ce qui devrait venir après? Je devrais-tu aller en avant ou ses côtés ou peu importe? Ça peut donner un peu une idée. Il y a différents modes. Il y a le mode facile où on a les indications et tout et tout. Il y a un mode plus difficile où on peut enlever toutes les indications. On a aussi un mode où on peut faire semblant qu'il y a un écran dans notre écran. C'est comme si on avait l'écran d'arcade dans notre télé. Fait qu'il y a différents modes. Là, c'est le fun, mais comme je vous dis, c'est pas long. Mais c'est un classique du jeu vidéo. C'est vraiment quelque chose qui sortait de l'ordinaire dans le temps. Puis encore aujourd'hui, ça serait quelque chose d'intéressant parce que des films comme ça interactifs, il y en a pas des tonnes. Fait que c'est quand même très bien. Puis les dessins sont vraiment très beaux. Là. On parle d'un gars qui a travaillé pour Disney dans le temps. Là. Fait que c'est aussi beau que si vous regardez peut-être les films de Disney dans le temps, Blanche-Neige ou Cendrillon ou des choses comme ça. C'est vraiment beau comme ça quand on joue. Là. C'est un classique. Ça a marqué mon enfance. Puis c'est pour ça que je suis de même aujourd'hui. Jouez pas, finalement.
Non! Après toute cette critique positive, jouez donc pas.
C'est pour devenir comme moi. Jouez pas, finalement.
Merci beaucoup, Luc!
Ben, ça fait plaisir.
Une première dans le rétro. Avis aux auditeurs. Lâchez-nous un petit commentaire sur notre page Facebook, facebook.com/realitéhug, ou encore sur Twitter, @realitéhug. Dites-nous, rétro, ça passe ou ça passe pas? Ou Luc, ça passe?
Ça ne demande pas si Luc, ça passe ou ça passe pas. Tu sais bien que je serai pas là dans le prochain show si tu demandes ça.
Mais, on va
avoir pitié. Non, c'est ça. Je vais peut-être faire d'autres rétros. Il y a tellement de jeux qui ont marqué. Puis je trouve ça tellement plate qu'il y a du monde qui n'auront pas la chance de jouer à ce jeu-là. C'est comme il y a un jeu, je parlais avec FDL dans le dernier Histoire de Gamer qui s'appelle Beyond Castle Wolfenstein. Puis tout le monde, quand tu parles de Wolfenstein, dit « Ah ouais, Wolfenstein 3D, ouais, je connais ça. » Non, avant ça.
OK, parle-en pas trop. Garde-nous ça pour un autre parce que je sais que tu m'en as déjà parlé. Je sais c'est quoi le jeu, tu m'en as déjà parlé, mais je pense que ça vaudrait la peine d'en faire la critique sur la réalité augmentée dans un épisode éventuel.
Dans une coupe de show.
Oui, éventuellement, ce serait une belle ride à faire ensemble. Merci beaucoup, Luc.
Merci, Jean-Benoît.
Merci à toi, Daniel.
Ben, merci, JB.
Et merci à toi, Maxime.
Merci de m'avoir invité.
À tous les amis.
Il est tranquille, Maxime.
Oui, relax.
Si mon gars serait si tranquille que ça, ce serait tellement le fun dans la maison.
C'est l'habitude de vous écouter pendant que je travaille, tu sais.
Fait que là, t'as décidé que tu te sortais du travail puis t'as travaillé pendant que t'étais sur le show.
Oui.
Oui, oui. Donc, juste comme ça, Max, où est-ce qu'on peut te retrouver sur le web si on est intéressé par tes qualités de dessinateur ou si on veut juste jaser avec toi, on te retrouve comment?
En fait, sur Twitter, donc @moxmixmax. Plus facile de me trouver si on regarde par Réalité Hog les personnes qui le suivent. Sinon, sur maximegiga.com, qui est mon site temporaire présentement, je travaille sur une version plus élaborée. Et de là, on a mes contacts pour m'envoyer un courriel, donc info@maximegiga.com.
Parfait. Daniel?
Ben, moi, écoutez, vous avez plusieurs façons. Premièrement, il y en a qui m'appellent Dieu, donc regardez vers le ciel.
Faites une prière.
Faites une prière, vous allez me trouver. Mais sinon, si vous avez, disons, des envies plus modestes, vous pouvez toujours aller sur Twitter au DracoADG. Donc, c'est sûrement la façon la plus facile de me retrouver. Sinon, sur affairesdegas.com, vous pouvez retrouver mes textes. J'en publie quand même assez régulièrement, dont le dernier sur la PlayStation 4. Pourquoi devriez-vous acheter une PlayStation 4? Donc, je me penche là-dessus. Et plusieurs autres critiques à venir, ainsi qu'un spécial Xbox One dans les prochaines semaines.
Dieu vous donne la réponse. Pourquoi la PlayStation 4?
Écoute, moi je suis comme un guide.
Un gourou.
Non, un guide. Un guide.
Un guide spirituel.
Ouais.
Comment ça s'en vient, la fondation de ta secte?
Ah, ça s'en vient bien. À date, j'ai pu récolter finalement. Écoute, je suis pas loin du million maintenant.
Ah ouais?
C'est bon. Ouais.
On devrait se lancer là-dedans aussi, Luc, toi et moi. Je pense qu'on serait pas pire. Luc,
on est capable.
On te retrouve où sur le web, cher copain?
Sur Twitter, @scalazormo. Puis vous pouvez aller écouter mon autre podcast qui est terminé, mais il y a quand même 22 épisodes d'environ 2 heures chaque, si jamais vous avez rien d'autre à écouter, qui s'appelle Histoire de Gamer. C'est disponible sur le cjuap.com. Puis toi, mon petit JB.
Vous pouvez me retrouver sur les comptes officiels de la réalité augmentée, autant sur Facebook que sur Twitter, facebook.com/realitéhog, @realitéhog. Pourquoi tu ris? Qu'est-ce qui se passe? Qui rit?
Je sais pas, je pense que c'est dans ta tête.
Okay. C'est dans ta tête, JB.
On va faire une coupure. Et aussi, je gère mon compte à moi sur Twitter, @gangj_b. Donc, si vous voulez me jaser personnellement, vous passez par l'un ou par l'autre. Il n'y a pas de problème, c'est moi qui ai les clés de la bâtisse. Il n'y a pas de trouble. Un gros merci à vous tous, les gentils garnements, d'avoir été de cet épisode La Réalité Augmentée. C'est déjà pas mal dessiné là, pour notre épisode spécial pour le 50e. On va se faire un épisode live, les trois ensemble, dans la même cabane pour se jaser pour une première fois en... ça va être en live différé, là, mais face à face. On va faire un genre de spécial fin d'année sur ce qui a marqué notre année geek. On ne sait pas encore la formule encore, c'est pas bien grave. On va vous présenter ça là, dans le temps des fêtes, ce 50e épisode-là spécial. J'ai bien hâte de vous croiser, les petits garnements.
Ouais, ça devrait être intéressant.
Ouais, t'es mieux d'avoir une grosse pièce parce que ça a l'air que je suis massif.
Assez pour que la gravité de la Terre te rattrape vraiment vite. C'est ça que tu disais l'autre fois, hein?
Oh, oui, tout à fait. Moi, c'est pas un être humain que la gravité va rattraper, c'est une météorite. Oui, c'est tout à fait. Moi, je pense que ma masse est comparable à la Lune. Là.
Ah ouais, à ce point-là.
Le gars, il a dit qu'il y avait un enfant à l'intérieur de lui.
Oui, c'est vrai.
Ça prend de la place.
Cet enfant-là a peut-être grandi, là. Il a peut-être comme 18-19 ans, là.
Peut-être.
Ça dérape.
Merci à vous tous d'avoir été là. C'est là-dessus que ça se termine, cette émission La Réalité Augmentée. On vous dit un gros merci et à une prochaine fois. Salut tout le monde.
Bye.
Ciao.
Bye.